Bonjour Jean-Christophe Notin.
Bonjour.
Pensez-vous, comme François Hollande, que la mission Serval a été parfaitement accomplie et qu'il n'y a plus de sanctuaire pour les groupes terroristes au Mali ?
Alors tout dépend, on fixe la barre, on va dire. Pour François Hollande, qui a donné les ordres le 11 janvier 2013 au lancement de Serval, il a donné pour objectif aux militaires d'arrêter les djihadistes, ça a été fait, de reconquérir le territoire malien, ça a été relativement fait, et de détruire, sont ces termes exacts, les djihadistes. Et ça a été évidemment partiellement fait. Alors, en termes de sanctuaire, c'est vrai que le sanctuaire du Tigargar, qui était le sanctuaire principal, a été nettoyé, mais on voit qu'il y a des retours depuis.
Quelles leçons ont été tirées de Serval pour lancer l'opération Barkhane ?
Barkhane est véritablement la reprise de ce qui a le mieux marché au sein de Serval. Les frappes très ciblées sur des groupes djihadistes, terroristes. Donc c'est plus une opération contre-terroriste quand Serval était plus une opération de reconquête territoriale. Donc Barkhane n'est que le prolongement de Serval en recentrant sur ce qui a le mieux marché, c'est-à-dire l'attelage force spéciale DGSE.
Attelage, donc DGSE, ce sont les renseignements extérieurs et forces spéciales. On va rentrer dans le détail et vous détaillez notamment dans votre livre le rôle des renseignements extérieurs dans l'opération Serval. Vous expliquez d'abord que le gouvernement socialiste à son arrivée au pouvoir découvre que la DGSE est en guerre depuis 10 ans au Mali et que son rôle a été jusqu'à présent peu pris en compte.
Oui, alors ça c'est totalement méconnu. La DGSE observe la zone de manière très attentive depuis le début des années 2000, a mené des opérations très fortes de destruction et d'élimination de djihadistes en partenariat avec les services locaux. Donc c'est ce que découvre le gouvernement socialiste en arrivant au pouvoir en mai 2012. Et découvre également ce que lui dit ensuite la DGSE, c'est-à-dire qu'en fait la situation est devenue complètement incontrôlable désormais pour elle et qu'il fallait donc une opération massive pour porter des coups beaucoup plus durs aux djihadistes.
Combien de djihadistes ont été tués par la DGSE avant Serval ?
Alors par la DGSE, une fois de plus, en collaboration avec les services locaux, on m'a donné le chiffre de 83.
Au cœur de Serval, il y a donc aussi les forces spéciales qui mènent des opérations commando secrètes. Et elles ont été tout au long de Serval en première ligne pour ouvrir la voie à l'armée conventionnelle. C'est ce que vous racontez.
Oui, alors les forces spéciales françaises sont venues au Mali en 2011-2012. Ils sont restés très peu de temps, c'était à des fins de formation. Ils n'ont pas trouvé une très grande réceptivité de la part des forces maliennes. Donc elles ont quitté les lieux, mais elles sont restées sur zone à Ouagadougou. Et sont donc à partir de Ouagadougou que les forces spéciales sont intervenues ensuite au Mali à partir du déclenchement des opérations. En fait, la veille, elles sont présentes la veille du déclenchement, donc le 10 janvier à Mopti Sévaré. Elles sont toutes seules, il faut bien imaginer, toutes seules. Bamako est à 800 km, il n'y a personne avec elles, sauf ces quelques soldats maliens qui ont eu le courage de tenir le choc. Donc ce sont elles qui encaissent le choc de la ruée djihadiste vers le sud, sont elles qui les repoussent, et ce sont elles qui vont les percuter sans arrêt, pour la prise de Gao, pour la prise de Kidal, la prise de Tessalit. À chaque fois sont elles en avant, un ou deux jours avant l'armée de terre, qui vont vraiment bousculer les djihadistes, sont elles qui vont créer cet effet de sidération. Les djihadistes qui vont pas comprendre. Que font ces Français à cette heure-là, à ce moment-là, si haut dans le territoire malien ?
Les forces spéciales ont-elles parfois fait cavalier seul ? Y a-t-il eu des tiraillements avec l'armée conventionnelle ?
Alors oui, là on entre évidemment un peu dans la polémique. Il est évident que les forces spéciales, voyant leur réussite, l'appétit vient en mangeant, donc ont eu un peu tendance à aller plus vite que ce que la brigade Serval, c'est-à-dire l'armée de terre qui devait venir derrière, aurait pu le faire et pour venir les aider. Donc ça a causé évidemment des problèmes, puisque quand les forces spéciales prennent une grande ville comme Gao ou Kidal, une fois de plus, elles ont besoin de relais derrière. Et si ces relais sont très loin et n'ont pas les moyens pour les rejoindre, évidemment, ça crée des petites tensions.
Mais elles ont l'appui des politiques.
Oui. Oui, oui, ça c'est la raison d'être de Serval, sa raison première de réussite. Les politiques voient très vite l'efficacité des forces spéciales et donc leur donnent, j'allais dire un chèque en blanc, c'est très rapide, mais leur font une confiance absolue.
Qui a donné le tempo de la guerre ? Est-ce plutôt l'armée, l'état-major ou bien le politique ? Le ministère de la Défense.
Alors là aussi, c'est une originalité, j'allais dire, de Serval, même assez inédite, une implication des politiques dans le déroulement des opérations. Les socialistes n'en sont jamais cachés, ils ont voulu redonner un rôle supérieur au ministre de la Défense, et qui a donc, au cours de Serval, pesé fortement sur les opérations via une réunion qui a été menée chez son directeur de cabinet, réunissant tous les opérationnels de Serval, et qui ont très fortement influé et sur le tempo de l'opération, c'est-à-dire toujours demander d'aller beaucoup plus vite, et également dans le détail, puisque typiquement, les militaires ne voulaient pas prendre Tombouctou, Et ils ont été obligés de prendre Tombouctou à la demande des politiques qui ont voulu la conquête d'une ville symbolique.
Merci Jean-Christophe Notin.
Merci à vous.